Bien, pour ce soir, pour cette première soirée, on va beaucoup parler du cœur. Ce qu'on va faire ce soir surtout, c'est qu'on va dézoomer. Nous sommes l'humanité, nous représentons l'humanité. Mais nous sommes dans une fresque beaucoup plus grande que nous, spirituellement parlant. Et on va voir un petit peu ce soir tous les enjeux, à travers les relations, tous les enjeux qu'il y a. Les blessures relationnelles, on est tous blessés d'une manière ou d'une autre. Les blessures relationnelles nous donnent un cœur qui est malade. On va beaucoup parler du cœur parce que le cœur, c'est le siège des émotions, c'est le siège des pensées, c'est le siège des blessures. Et tout est emmagasiné dans ce cœur spirituel. C'est ce que Matthieu nous dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Tout naît dans le cœur. Et parce que le cœur est malade, les pensées qui naissent sont des pensées qui sont malades. Et ça, c'est l'humanité tout entière. Et c'est ce que Isaïe nous dit. Hein, dans 1, 6, Isaïe nous dit ceci: la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Et l'huile ici représente le Saint-Esprit. Donc on a ici un tableau de la nature humaine, de l'humanité. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a été touché, c'est tout le monde. Et tout de suite, en introduction, il faudra prendre conscience que tous ici, on a été blessés. Et toute l'humanité est blessée. Et l'ennemi voudrait nous faire croire que nous, personnellement, nous avons été blessés. Et c'est une erreur. Mais c'est une erreur qui va nous entraîner à nous culpabiliser, à avoir de la honte, à avoir une mauvaise estime de nous-mêmes, parce que quelquefois, nous croyons le mensonge de l'ennemi. Mais déjà, on peut voir que c'est un mensonge, parce que la Bible nous dit que tout le monde, à cause du péché, c'est ce que nous allons voir ce soir, tout le monde est malade. Et donc, il n'y a rien d'étonnant, puisque tout le monde est malade, il n'y a rien d'étonnant à ce que nos relations sont conflictuelles. Nos relations interpersonnelles sont malades. Et ça entraîne des blessures de chacun depuis qu'on est petit, depuis la naissance, et quelquefois dans le ventre de la maman. Tout le cœur est souffrant. Le cœur, c'est le cœur spirituel, le siège des pensées, le siège de nos émotions, le lieu secret où sont gravées toutes nos souffrances, toutes nos blessures, l'histoire émotionnelle de notre vie. Quelque chose qui est compliqué à expliquer, quelque chose qui est difficile à mettre en mots, MOT. C'est compliqué d'en parler. C'est compliqué quelquefois de savoir ce qui se passe exactement dans le cœur de quelqu'un. La Bible le dit, qui peut connaître le cœur de l'homme? Il est tortueux par-dessus tout. Donc c'est compliqué, on vit avec nos secrets. On vit avec nos souffrances. Mais ça fait qu'on a du mal à bien vivre à cause de ce cœur qui est malade. C'est un endroit dans notre être intérieur, où en réalité, seul Dieu a le pouvoir d'intervenir. C'est un endroit où aucun être humain n'a le pouvoir d'intervenir. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Lui seul a le pouvoir de guérir nos souffrances invisibles, mais ô combien tenaces. Parfois inexplicables. On n'a pas d'explication à nos souffrances. On ne sait pas pourquoi on est comme ça. Parfois, ces souffrances, ils sont murés dans une honte captive. On n'ose même pas en parler parce que la honte a réussi à prendre le dessus sur ce qui nous est arrivé, sur nos histoires, sur nos pensées secrètes. La honte nous empêche de parler. Jésus seul a le remède. Et ce remède, c'est son amour inconditionnel. Un amour qui est à l'origine de notre existence. C'est un amour qui est dans notre ADN. Parce qu'on a été fait par amour, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel. C'est ça qui a motivé le cœur de Dieu au départ. Et donc on est relié, que l'on veuille ou non, on est relié par notre ADN à cet amour inconditionnel. Et sans cet amour, nous ne sommes que des orphelins sur cette terre. Tant qu'on n'a pas refait une connexion avec le Seigneur, on est tous des orphelins sur cette terre. Et on vit en orphelin. On vit, il y a une face de nous, il y a un masque qui vit avec les autres, mais il y a un autre masque, c'est le masque de ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est les souffrances. Ça, c'est le mal de vivre. Et ça, c'est à l'intérieur. Et tant qu'on n'a pas, on n'a pas fait une reconnexion avec celui qui nous a créés, qui est le seul à pouvoir communiquer cet amour dont on a besoin, cet amour inconditionnel. Les êtres humains le cherchent à travers d'autres êtres humains, mais ils ne peuvent pas l'avoir. Parce que seul Dieu a la capacité de nous transmettre cet amour inconditionnel. Et les êtres humains cherchent, et ils cherchent, et ils cherchent après quelque chose dont ils ont besoin. Mais ils peuvent être que déçus. Parce qu'aucun être humain n'a le pouvoir de donner ce qu'il n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et on n'a pas cet amour inconditionnel. On a un amour qu'on appelle filaire, un amour de bonté, un amour par affinité, un amour qu'on essaye, malgré tout, de donner au mieux qu'on peut. Mais combien cet amour nous a déçus? Combien cet amour nous a trahis? Combien cet amour a été à l'origine de nos souffrances? Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Vous voyez, on a cet ADN avec le Seigneur. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On entend la voix du Seigneur et on suit la voix. C'est quelque chose qui est imprimé en nous. C'est quelque chose qui fait partie de nous. Et nous qui avons entendu cette voix du Seigneur et on a répondu à cette voix du Seigneur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On a ressenti cet amour inconditionnel. La Bible nous dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » C'est le trésor que nous avons reçu. C'est ce qu'on a reçu et c'est ce qu'on a besoin. Quelquefois, on ne réalise pas. Quelquefois, nous sommes insatisfaits. Parce qu'on dirait qu'il nous manque quelque chose sur cette terre. Mes frères et sœurs, il nous manquera toujours quelque chose sur cette terre. Parce que cette terre ne peut pas nous apporter ce que nous avons besoin réellement. Et quelquefois, il nous faut prendre conscience de ça, que c'est l'amour de Dieu qu'on a besoin. Ce n'est pas la belle voiture, ce n'est pas la belle maison, ce n'est pas la belle épouse, ce n'est pas le beau gars, même si c'est important. Voilà, même si c'est important. Mais attention, ne nous trompons pas. Jamais cela viendra combler nos besoins intérieurs. Jamais. Alors en extérieur, oui, avoir de l'argent, c'est bien. Ça nous permet de mieux vivre. Avoir des avantages qu'il y a sur cette terre, c'est sûr que ça va sans doute apporter des bonnes choses. Mais vous savez, quand vous réalisez tout ça, tous ceux qui l'ont déjà, vous croyez qu'ils sont heureux en réalité? Tout ce qui se passe à l'intérieur, là, ils ne le disent pas. Quand vous avez des gens qui se suicident, alors qu'on pourrait dire, je ne comprends pas, ils avaient tout. Non, il leur manquait l'essentiel. C'est la vie intérieure qui nous dirige. Ce n'est pas la vie extérieure. Rien d'extérieur, entendez ça, rien d'extérieur ne peut venir combler l'intérieur. Tout ce qui est d'extérieur est éphémère. Par contre, quand vous avez reçu de Dieu et que c'est à l'intérieur de vous, personne ne peut vous le voler. On ne peut pas voler votre paix. On ne peut pas voler cet amour. C'est marqué. Personne ne les ravira de ma main. On ne peut pas venir te voler quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Notre séparation avec Dieu depuis le jardin d'Éden nous a rendus orphelins. Et à la place de cette vie qui était tirée de cet amour divin, nous avons hérité d'une vie de péché. Ce péché qui a rendu notre cœur malade et qui nous a conduit à faire le mal que nous ne voulions pas faire et à recevoir de la part de ceux que nous aimons des flèches meurtrières qui nous ont laissés dans un désarroi sans nom. Vous voyez ? C'est pas que toi qui as reçu ces flèches meurtrières. C'est chaque être humain qui a reçu ces flèches. Nous conduisons à devenir de plus en plus méfiants, meurtris, et bien souvent dans une amertume, nous amenons à rompre de nombreuses relations. C'est l'histoire de notre vie, de nous rendre malheureux les uns les autres, parce que les relations ont été rompues, parce qu'on avait investi sentimentalement, affectivement, avec d'autres êtres humains, et on a été déçus. Et on n'a pas compris pourquoi on a reçu ces flèches-là. Quel était le message de ces flèches-là ? Quand tu reçois un message, quand tu reçois une flèche, il y a un message. Et le message, bien souvent, c'est l'ennemi qui l'écrit. Et il te fait croire que c'est de ta faute. Tu n'es pas à la hauteur. C'est pas pour toi. Toi, tu es un bon à rien. Toi, tu réussiras jamais. Toi, tu ne seras jamais aimé. C'est ça le message des flèches de l'ennemi. Et souvent, ils nous sont transmises par des gens qui étaient proches de nous. Quelle injustice, quelle souffrance, quelle incompréhension, quelle trahison, quel rejet. Vous avez là la naissance des blessures, la naissance des souffrances. Et ça, ça commence depuis étant petit. Et ça se poursuit toute notre vie. Alors que nous avions été programmés pour nous aimer les uns les autres, nous nous sommes retrouvés à faire du mal sans raison valable. Les autres nous ont fait du mal, mais nous aussi on a fait du mal, puisque c'est notre nature avec le péché. Nous sommes fait du mal à nous blesser les uns les autres, et cela avec les personnes les plus proches de nous. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les disputes, les jalousies, les calomnies, les médisances, les mensonges, les injustices, les rejets, les abandons, sans oublier les trahisons. Et bien souvent, nous sommes restés abasourdis. Chaos debout, comme on dit. Sonnés, ne comprenons rien à ce qui nous arrive. Et restant seuls avec nos interrogations. Et les interrogations, on les connaît. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi ça me tombe sur moi ? Cette amertume qui commence à naître dans le cœur parce qu'on est blessé et que ce n'est pas juste. C'est parce qu'on est blessé et on n'a pas l'impression d'avoir fait quelque chose pour mériter ça. Et quelquefois, c'est des circonstances. J'ai fait un petit tableau pour avoir cette pièce de théâtre, ce monde dans lequel on vit et dont on fait partie, on est acteur de cette vie-là. Mais si on prend un peu de recul, on voit ceci, que la séparation de Dieu nous a créé le péché dans notre vie. Et le péché, ça a amené deux choses qu'il faut avoir conscience. Le péché a amené le monde déchu dans lequel on est. Le monde est déchu. Et ce monde déchu, c'est que les circonstances sont malheureuses. Il arrive plein de dégâts. Et souvent, il nous arrive des choses et on dit « mauvais endroit, mauvais moment ». Et souvent, ça arrive. Et c'est parce que le monde est déchu. Ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas à cause de nous. C'est parce que le monde est déchu. Un monde déchu, c'est un monde où le péché règne, où le mal règne. Et d'autre part, ça a produit des hommes. Alors, homme avec un grand H, quand j'emploie le mot homme, comprenez que c'est homme et femme. Homme déchu. Et qu'est-ce que ça a donné à les hommes déchus ? Ça a donné la méchanceté, à travers des paroles, à travers des actes. Même quand on veut faire le bien, on se retrouve quand même à faire le mal. C'est ce que Paul dit. Ce que Paul dit quand, dans l'Épître aux Romains, Paul dit « le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve à le faire ». Et combien de fois on a blessé des gens alors qu'on ne voulait pas le faire. Et on l'a fait quand même, parce que c'était plus fort que nous. Il y avait quelque chose qu'on appelle le péché, une puissance en nous qui nous ont amenés à faire du mal. Et c'est les paroles aussi. Quand vous êtes dans une famille, et depuis étant petit, vous avez des paroles qui vont sortir. Et ce ne sont pas des paroles de bienveillance. Il y a beaucoup de paroles qui font du mal. Et ça, tout ça, ça a amené les blessures de l'être humain, qu'on connaît tous. Hein, que ce soit la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, tout le monde a reçu des blessures. Et ces blessures-là ont donné un cœur malade et souffrant. Voilà l'état dans lequel nous sommes. Tant que nous ne sommes pas arrivés à renouer avec Dieu, nous sommes avec un cœur malade. Et on verra tout à l'heure que même en étant reconnecté à Dieu, il nous faut encore guérir, guérir et encore guérir. Parce que nous sommes en reconstruction. Un cœur malade et souffrant. Et c'est ça que les êtres humains cachent, qu'on ne peut pas savoir. C'est le siège de nos pensées, des pensées qui ne sont pas forcément à la gloire de Dieu, des pensées négatives, mais aussi des pensées sur nous-mêmes, toutes sortes de pensées que nous créons à partir de ce cœur malade. C'est aussi le siège de nos émotions. C'est là où les blessures se manifestent. Le lieu secret où sont gravées toutes nos souffrances, toutes nos blessures. Et c'est du cœur que la bouche parle. Quand vous entendez quelqu'un parler, il parle avec son cœur. Et le cœur, c'est là où toute son histoire est présente. Donc vous avez ici un tableau qui résume un petit peu spirituellement ce qui se passe dans les êtres humains. Je vais un peu vite. La Bible ne nous cache rien de cette réalité. Elle ne nous cache rien. On a par exemple l'image de David, l'homme au cœur de Dieu. David, un menteur. David, un meurtrier. David, un adultère. La Bible aurait pu cacher tout ça et donner une belle image de David. Non, elle a montré le cœur humain tel qu'il est. C'est la parole de Dieu qui nous montre la vérité, la vraie nature de l'être humain, un cœur tortueux qui l'anime à cause du péché. Nous sommes appelés à vivre avec cette réalité, c'est-à-dire l'accepter. Le problème de l'humanité, et même des chrétiens, je dirais, c'est que bien souvent, ils n'acceptent pas cette réalité. Ou alors, ils n'en ont pas conscience. Ils ne vivent pas avec cette réalité. Il nous faut accepter cette réalité pour classer le dossier. Parce que sinon, on reviendra sans arrêt aux mêmes questions. Pourquoi ? Et pourquoi moi ? Quand on réalise tout ça, pourquoi ? Pourquoi moi ? On a la réponse. Et on n'a pas besoin de revenir sans arrêt sur ces questions-là qui nous arrivent quand on est blessé par quelqu'un, quand on est déçu par quelqu'un, quand on a une mauvaise circonstance. On n'est pas à se dire pourquoi. Sinon, on n'a pas compris ce qui se passe dans la Bible, ce que la Bible nous explique. On le sait. C'est le péché. On est averti par la Bible. Aujourd'hui, vous voyez les actualités, vous voyez des gamins de 12-13 ans avec un poignard et qui tuent à 12-13 ans. Et là, vous avez tous les sociologues, les psychologues, les thérapeutes qui disent « Mais pourquoi ? C'est les parents ? C'est une mauvaise éducation ?» Non. Non, ils n'ont rien compris. C'est le péché. Le péché qui est dans le cœur de chaque être humain. Mais non, ils ne peuvent pas, ils ne sont pas éclairés. Mais là, je m'adresse aux chrétiens là, ce soir-là. Je dis que même parmi les chrétiens, il y en a qui se font avoir et qui se posent encore la question « Pourquoi ?» C'est une énergie qui est mise au mauvais endroit. C'est des pensées qui ne devraient plus être là parce que les pensées vont se retourner contre toi. Parce que l'ennemi va se servir de ça. Et les messages des flèches que tu as reçues depuis 20 ans, 30 ans, ils vont se réactiver. C'est toi. C'est toi le problème. Bien sûr qu'on a le cœur méchant, bien sûr. Mais l'essentiel, il n'est plus là. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. C'est notre appel d'apprendre par la puissance du Saint-Esprit à nous aimer les uns les autres malgré les aspects sombres qui habitent en chacun d'entre nous. On va le voir plusieurs fois ce soir. Le défi à relever, nous, chrétiens, c'est d'aimer. Malgré la connaissance que nous avons du cœur humain. Grand défi. C'est-à-dire, je vais le répéter plusieurs fois, c'est-à-dire que je suis appelé à aimer mon frère qui peut-être me fera du mal. Je suis amené à aimer mon frère avec qui peut-être moi je vais faire du mal. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. D'une part, parce que c'est le commandement de Dieu. Aimez-vous les uns les autres et aime ton prochain comme toi-même. D'accord ? Et deuxièmement, on a été fait pour vivre en relation les uns avec les autres. On n'a pas été fait pour aller vivre à Sillaos en ermite, à je ne sais où, combien de kilomètres de Sillaos, pour voir personne. On va devenir fou. On a été fait pour aimer. Et aimer, c'est les relations. Comment tu peux aimer s'il n'y a pas de relation? Donc on dirait qu'on est un peu pris dans un piège où on doit aimer et en même temps les gens qu'on aime, c'est peut-être ceux-là qui vont nous faire du mal. Waouh! Comment on fait? La réponse va arriver. Patience. Classer le dossier, c'est mettre notre énergie, notre volonté, nos prières sur l'essentiel. Décider de ne plus chercher à rationaliser, décider de ne plus chercher à essayer de comprendre la faute de l'autre. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il a agi comme ça avec moi? Si vous mettez vos énergies là-dessus, vous perdez votre temps. Il faut classer le dossier. Non, il s'agit plutôt que maîtriser nos émotions à ce moment-là. Faire preuve de maturité. Bien sûr qu'il y aura une émotion. On ne devient pas des robots. Bien sûr qu'on a été fait avec des émotions. Et quand on a investi dans une relation et que cette relation commence à tourner au fiasco, c'est normal qu'on soit déçu. C'est normal que ça fasse mal. Mais la maturité du chrétien va faire qu'il va se relever et il va garder la maîtrise de soi. Il ne va pas partir dans quelque chose de dramatique où là, il se torture l'esprit, il rumine sans arrêt. Mais pourquoi? Pourquoi il m'a abandonné? Mais pourquoi si? Mais pourquoi ça? C'est pas normal. Exactement.
Pardon?
Si c'est normal. Si tu le prends spirituellement, c'est normal. Parce que ça fait partie de la nature humaine. Il s'agit plutôt de maîtriser nos émotions pour continuer à être dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire de continuer à aimer la personne parce que mon Papa Céleste prend soin de moi et il ne veut pas que je tombe dans les griffes du diable. Il y a un enjeu spirituel. C'est de casser la relation, c'est de briser la relation. Mais plus que ça, c'est de haïr la personne. C'est de cultiver l'amertume. C'est de cultiver la vengeance, c'est de cultiver tout ce sentiment qui vient de la méchanceté. Et ça, c'est pas bon pour nous, personnellement. C'est comme si qu'il y avait une double peine. Il y a déjà la première peine, que quelqu'un nous abandonne, que quelqu'un nous rejette. Mais il y a la deuxième peine qui peut durer longtemps, celle-là. C'est la peine qu'on s'inflige à nous-mêmes. Parce qu'on rentre dans l'amertume, parce qu'on rentre dans la haine. Parce qu'on rentre dans quelque chose qui n'est pas bon pour notre âme. Et ça, Dieu ne veut pas qu'on se laisse envahir par ces pensées-là. Parce que l'enjeu est important. Parce que l'ennemi va reprendre le contrôle sur notre vie. C'est ça qui est en jeu. La puissance du péché qui est là va amener l'ennemi à reprendre le dessus sur nous. Chaque être humain a son propre champ de bataille. Sa propre histoire avec laquelle il doit composer ses propres blessures. Il nous faut vivre sur cette terre, survivre même des fois, avec les souffrances qui ont marqué notre vie, et surtout avec un ennemi qui ne nous laisse aucun répit. Guérir de tout ce passé pour ne plus vivre dans la honte, dans la culpabilité ou dans la peur, et pour vivre dans l'essentiel. C'est notre appel. Aider cette humanité à sortir de ce piège infernal qui dure depuis la sortie du jardin d'Éden. Ce que vous entendez ce soir, c'est la vérité de l'Évangile. C'est d'abord pour nous. C'est d'abord pour arrêter de tomber dans les pièges de l'ennemi. C'est d'abord pour guérir. Comprendre que tout ça, c'est une grande pièce. On va le voir tout à l'heure. Et que moi, je suis un élément de cette pièce-là. Mais c'est à moi de comprendre comment l'ennemi agit et de ne pas tomber dans son piège. C'est là notre responsabilité. C'est d'aller auprès de notre Papa Céleste, dans le refuge, guérir de ces souffrances-là. Et après, apprendre, avec la vérité de l'Évangile, à ce que ça ne se reproduise pas. Parce qu'on va voir que oui, il y a l'ennemi qui nous fait du mal. C'est vrai, mais il y a notre part. C'est comment on réagit avec ce que l'ennemi nous fait. Et c'est là que tout se joue. C'est là où on peut cultiver l'amertume. C'est là où on peut cultiver la vengeance. C'est là où on peut rentrer dans des choses qui vont nous faire du mal. Et après, guéris de tout ça. Notre appel, c'est de guérir les autres. Ça ne s'arrête pas là. C'est qu'on a une famille à sauver. On a nos enfants à sauver. C'est qu'une fois que ces vérités-là font partie de notre vie, que ça a été intégré dans notre cœur, et pas seulement intellectuel, que nous avons été transformés pour comprendre pourquoi il faut faire tout ça. C'est tellement à l'encontre de notre chair. C'est tellement à l'encontre de nos habitudes, de cette façon dont on a été construit. La Bible, elle est à l'encontre de ce que la société nous apprend. Et quand Dieu nous appelle, c'est pour changer de vie. C'est une repentance, c'est une autre conception de la vie. On est appelé à changer notre pilote automatique, notre façon de faire qu'on fait depuis 20 ans, 30 ans, de façon à être libéré de tout ça et être guéri de tout ça et pour aider les autres à s'en sortir. Parce que c'est universel. Ce n'est pas que pour quelques-uns. Des fois, j'entends « Ah, ça t'a fait du bien, toi, ça ?» Ben, c'est bien, continue, c'est ton truc. Moi, non, c'est autre chose. Moi, c'est plutôt l'hindouisme. Moi, c'est plutôt le zen. Tu vois, moi, c'est plutôt le yoga. Tu vois. Foutaise. Foutaise. C'est tout le monde qui est logé à la même enseigne. Et tout le monde a besoin du sacrifice de Jésus. Ce n'est pas le yoga qui va te guérir de tes blessures. C'est l'amour de Dieu qui va te guérir de tes blessures. Si nous voulons être vainqueurs dans nos relations, dans notre vie, si nous voulons être vainqueurs, c'est notre appel d'être vainqueurs, alors il n'y a pas d'autre option que d'intégrer dans cette réalité de notre vie et agir, penser en conséquence. Vous comprenez? Ce n'est pas un enseignement où on vient puis on dit « Oh, t'es pas mal, hein, t'es dynamique le gars, t'es pas mal ce soir. » Non, on s'en fout du gars. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le résultat. Seigneur, aide-moi à comprendre tout ça. Aide-moi à changer. Aide-moi à être transformé. Aide-moi à penser différemment, à agir différemment. Ça, ça va porter du fruit. Ça, ça va changer ta vie. Mais d'écouter un beau discours, ça ne sert à rien. C'est ce que tu vas mettre en application qui va compter. Sur ce champ de bataille de ta vie intérieure, n'oublie pas qu'il y a un ennemi redoutable. Il est en première ligne. Il continuera chaque jour. Il n'y a pas de repos. Chaque jour, il continuera sans relâche son travail de sape. Il cherchera sans cesse à réactiver tes blessures non guéries en créant toujours plus de conflits interrelationnels. Tous les jours, il y a un risque que l'on se fâche avec quelqu'un. Tous les jours. Déjà, si on est en couple, c'est facile. Tous les jours, il y a un risque de dispute. Il faut être naïf pour ne pas penser ça. Il faut être dans un monde de bisounours, un monde qui n'existe pas, pour dire « Ah ben avec ma chérie, mais tous les jours ça se passe bien, qu'est-ce que tu veux, on s'aime nous !» Il faut arrêter. C'est pas vrai. Même si on s'aime, le risque de conflit est toujours là. Et c'est vrai avec tous les êtres humains. Vous allez au travail, il y a un risque. Vous allez, partout où vous allez avoir, il y a un risque. Pourquoi ? Pourquoi ? On peut dire pourquoi là. Mais on a la réponse. Pourquoi ? Parce que les êtres humains sont ainsi faits. Du cœur, la bouche parle, mais la bouche parle d'un cœur malade. Donc, si on te dit du mal, ne sois pas surpris. Si tu es surpris, ben relis ta Bible. Il y a un problème. C'est que tu n'es pas éclairé. Et en plus, elle t'aime bien en plus. Donc, si tu es avec l'aspect temporel, l'aspect terrestre, de réagir comme réagissent tous les êtres humains, tu vas dire, c'est pas normal. C'est pas normal. T'es, je lui ai rendu service et voilà comment elle me répond. Ben oui. Mais alors, c'est que la Bible dit vrai. Le péché est là. Le péché est actif. Ça, tu dois classer le dossier. Ça ne sert à rien de revenir tout le temps là-dessus. Et mais pourquoi elle me parle comme ça? Et pourquoi elle est comme ça avec moi? Mais j'ai rien fait, moi. Mais pourquoi? Arrête avec ça. Regarde à ton comportement. Regarde à comment tu es, toi, comment tu réagis. Là, tu vas porter du fruit. Mais sur le reste, ça ne sert à rien. C'est du temps de perdu, d'énergie de perdu. Tu vas te fatiguer la nénette. Je t'assure, ça ne sert à rien. Et l'ennemi est là. L'ennemi, il attend que ça. Si tu dis pourquoi, c'est l'ennemi qui va te répondre. Comprenez ça? Ça, c'est une vérité que très peu de chrétiens ont intégrée dans leur vie de tous les jours. Parce qu'ils disent, ah non, mais c'est dur. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Moi, j'ai envie de m'énerver. Ah, moi, j'ai envie de lui dire. Oui, oui, mais c'est pas compliqué. Ça, c'est facile. Parce que c'est naturel. Et donc, ce qu'on va voir pendant ces quatre vendredis, là, c'est justement une transformation dans chaque domaine de notre vie pour pouvoir réagir de la façon la plus adéquate à tous ces tentations, on va dire, que l'ennemi place sur notre route. Et on appelle ça des offenses. L'ennemi va placer des offenses sur ton chemin pour que tu tombes dedans. Et c'est tous les jours. Le chrétien, il est éclairé. Il n'a pas à être naïf. Et la nouvelle, alors ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est la réalité. Et la chose, c'est qu'il se sert des gens que tu aimes et qui t'aiment pour corser l'affaire. Si c'était des étrangers, ben ça serait beaucoup plus facile. On enverrait paître et puis on dirait bye bye. Et non, c'est des gens qui vont revenir tous les jours. Tu les vois tous les jours. C'est ta femme, c'est ton mari, c'est tes enfants, c'est tes parents. C'est des gens qui sont autour de toi. Pour que ça te fasse bien mal. Il fera tout, l'ennemi. Il fera tout pour que ton cœur reste en morceaux. C'est ça qui est dans l'enjeu. C'est, quelquefois, nous sommes tellement charnels que nous prenons la dispute au premier degré. On se dispute, on n'est pas en train d'élever le débat au niveau spirituel, alors que tout est spirituel. Et il fera tout pour que ton cœur reste en morceaux. C'est ça l'enjeu du moment. Tu es en train de te disputer avec ta fille. L'ennemi rigole. Il dit, ah, ça commence à marcher. Et toi, tu ne vois pas. Toi, tu veux juste avoir raison. Tu veux juste batailler pour avoir raison. Mais tu ne vois pas les enjeux qu'il y a. Tu ne vois pas qu'à la suite de ça, ton cœur va être en charpie. C'est ça l'enjeu. Il ne veut pas que tu guérisses. Il veut te laisser un peu plus chaque jour te débattre dans ton marécage d'amertume, laissant ce poison se distiller dans les recoins de ton âme. On verra quand on va traiter le chapitre des offenses. On verra comment ça fonctionne, l'amertume, le poison de l'âme. Comment, petit à petit, le piège dans lequel tu tombes, c'est comme un piège à loup, je vous ferai le dessin, le piège, clac, il vient se refermer et c'est comme des seringues. Et à chaque fois que tu rumines, pourquoi il y a dire, la seringue s'enfonce un peu plus et elle distille un peu plus le poison. Et toi, tu es là, ça va se passer, je le sens, attends un peu, elle ne perd rien pour attendre, tu vas voir. Allez, hop, un petit coup de seringue. Et tu t'empoisonnes, et tu t'empoisonnes, tu empoisonnes ton âme. Nous ne devons pas être naïfs sur les intentions de l'ennemi de notre âme et sur sa manière d'agir. Il a choisi les relations humaines. Il a choisi les pensées. Il a choisi tout ce cœur où tout est rassemblé, nos émotions, notre histoire, les trahisons, les blessures. Il a choisi là, en première ligne, dans l'endroit que lui connaît. Il connaît tes pensées. Il sait ce que tu penses. Dans notre marche sur cette terre, nous oublions souvent de quoi l'humanité est faite. Nous savons que le mal existe, mais nous sommes trop souvent aveugles sur le potentiel de méchanceté qui sommeille en chacun de nous. On est naïf. C'est ça qui nous tue. C'est qu'on ne fait pas assez attention. On ne fait pas attention sur cette réalité qu'en chacun de nous, il y a une capacité de faire le mal. Et de le savoir devrait nous permettre de prendre du recul et d'agir en conséquence, de ne pas rentrer dedans la tête la première comme si on ne savait pas. Tu vois, c'est comme si tu es en guerre, il y a un champ de bataille, là l'ennemi qui t'a présenté un beau piège, tu vois, et puis toi, tu fonces dedans et pof, qu'est-ce qui se passe? T'es mort! T'as même pas combattu, t'es déjà mort. Nous oublions que l'être humain a un mélange de grandeur et de désolation, de force vertueuse, mais aussi de péché écœurant. C'est nous! En tout cas, c'est moi. Je ne suis pas tout seul. Notre affection pour ceux que nous aimons, pour nos frères et sœurs que nous aimons, nous fait oublier que la puissance du péché est toujours active et qu'elle peut se manifester à n'importe quel moment et de manière aussi surprenante qu'inattendue. On le verra dans les offenses. Plus tu es surpris, plus tu t'y attends pas, plus tu es une bonne proie pour l'ennemi. C'est pourquoi dans cet excès de sentimentalisme et de naïveté, c'est là que nous préparons nos peines et nos désillusions. Il faut connaître l'ennemi, comment il agit. Il faut le connaître pour savoir. Quand tu vas à la guerre, tu essayes de connaître les plans de l'ennemi. Tu essayes de savoir comment il va agir. Parce que c'est ça la stratégie. Eh bien, la Bible nous donne la stratégie de l'ennemi. C'est à nous de l'intégrer, de l'incorporer et de réagir en fonction de ça. De dire, tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas. Là, tu voulais que je rentre en conflit, là, direct, là, je dis, quoi, qu'est-ce que t'as, toi? Non, ça ne va pas se faire. Et on verra comment il faut faire pour ne pas rentrer en conflit. L'apôtre Paul nous dit que les êtres humains, dans leur instinct les plus bas, sont enclins aux calomnies, aux querelles, à la jalousie, à l'ambition personnelle, quitte à écraser les autres, à la trahison, à la haine, pour ne nommer que quelques-uns de nos traits les plus noirs. Autrement dit, depuis le péché, nos âmes sont câblées pour avoir des tendances perfides, dangereuses et nuisibles. Bienvenue dans l'humanité. Bienvenue dans ce monde merveilleux. Et moi, je suis quelqu'un de très positif, malgré tout ça. Parce que j'ai compris comment l'ennemi veut essayer de nous amener dans la déception, dans la désillusion. Mais nous avons un grand Dieu, amen, qui est beaucoup plus fort que ça et qui nous dit comment faire. Si jamais nous obéissons, nous faisons comme il dit, alors l'ennemi, il n'a aucune chance. Amen. Et celles-ci font partie de nous. En tout cas, jusqu'à ce que la parole de Dieu refasse notre câblage avec l'Esprit Saint et nos efforts personnels, notre volonté, pour nous renouveler dans le Christ. Mais attention, nous sommes tous en rééducation, nous sommes tous en reconstruction, nous sommes câblés, mais tout le travail n'est pas encore fait. Et certains de nos proches, pourtant en grand danger, c'est-à-dire quelquefois c'est une amertume qui va bientôt envahir toute l'âme, ou un péché qui va les rendre esclaves du diable, ou un cœur qui s'endurcit de jour en jour, eh bien ces proches-là que nous connaissons, mais ils ne sont même pas encore entrés à l'hôpital spirituel de Christ, alors qu'ils auraient besoin urgent d'une transplantation cardiaque. changer de cœur, parce qu'ils sont pas loin de tomber. Ainsi sont tous les êtres humains. Nous avons un grand défi à relever, je le répète, nous tenir au plus près de la réalité, ne pas être naïf dans les relations qui existent entre les êtres humains, ne jamais quitter des yeux ce potentiel de péché. C'est de la naïveté, parce qu'il suffit d'allumer le poste de télé pour voir que le péché est partout. Ça commence dans les pays, on se fait la guerre, et ça n'a jamais changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le progrès a augmenté, mais par contre, la volonté d'être méchant, elle, ça n'a pas changé. Je veux envahir l'autre, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas assez de terre. Ah ouais, tu sais, bah là-bas, non, ça ne m'intéresse pas, là-bas, moi je veux celle-là, je veux celle-là. C'est comme à l'école, tu sais, tu as tout ce qu'il faut. Non, tu veux ce que l'autre a et que toi, tu n'as pas. Mais ça n'a pas changé. Tu prends Poutine, il a le plus grand territoire qu'il peut y avoir sur cette terre. Mais il veut le petit bout d'Ukraine, il veut le petit bout là, le petit bout. Et le petit bout fait des millions de morts. J'ai dit, mais arrête avec ça. T'as vu tout ce que t'as? Non, moi je veux le petit bout qu'elle a là. Pas ça, c'est ça que je veux. Mais quelle folie! Mais bien sûr. Tu vois Trump qui a un grand territoire aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Pareil. Il veut aller chercher le Groenland, il veut aller chercher... Mais c'est quoi tout ça? Et tu prends la guerre n'a jamais cessé. Après, tu ramènes ça à un niveau plus bas, mais tu verras, dans le pays, les uns sont contre les autres. Tu prends le foot, par exemple. Ah, j'étais dans un petit bled. Alors, les bleds étaient à peu près à 10 km les uns des autres. Mais c'était la guerre. La guerre, tu vois. Nous, on était Livaro, le club de Livaro. Et alors, Vimoutier, Saint-Pierre, tu dis, mais attends, quand on va les voir, tu vas avoir la foule à 30 qu'on va leur foutre. Attends, mais c'est que la guerre partout. Et si on descend plus bas, d'un niveau plus bas, la guerre dans les familles. La guerre, combien de familles ne se parlent plus? Un tel ne parle plus à un tel ne parle plus à un tel, parce qu'un jour il lui a dit ça, il ne fallait pas dire ça. Waouh, mais on n'en finit plus. Et tout le monde tombe dans le piège. On descend encore d'un niveau. La guerre dans les couples. On est fait pour s'aimer. Mais on se bouffe tout le temps la rate. Tout le temps en train de se bouffer la rate. Mais c'est quoi cette affaire? C'est comme si tu avais dit, c'est comme si tu avais pris ta femme par la main, tu as dit, chérie, tu veux te marier avec moi? Ah oui, chérie, je veux me marier. Tu vois, ça va être bien. Tous les jours, on va se disputer. Tous les jours, je vais te rappeler tout ce qui ne va pas dans ta vie. Hein, ça va être chouette. Je vais te dévaloriser tous les jours. Ça te dit, oh ouais, oh, super, allez, viens. C'est ça? C'est ça la réalité? La méchanceté dans le cœur humain. On rigole? Mais c'est ça la vérité. On a un grand défi à relever. Ne jamais quitter des yeux ce potentiel de péché, vivre en sachant que quelles capacités de faire le mal nous recelons, tout en continuant de nous aimer les uns les autres. Ce qui peut paraître un peu contradictoire. Se laisser surprendre parce que la nature humaine relève sa vilaine tête, c'est tout simplement montrer qu'on ne connaît pas bien la Bible et qu'on mène une vie déconnectée du monde réel. Un peu bisounours, comme on voudrait. Moi, je voudrais que les choses soient comme ça. Mais non, ce n'est pas comme ça, malheureusement. Nous allons voir tout au long de cette session comment concilier les deux. Nous aimer les uns les autres, tout en ayant conscience de la puissance du péché qui agit en chacun de nous et dans la vie de nos proches. Il y a un chemin. Il est étroit. Il n'est pas facile. Il est rocailleux. Son nom est... Vous êtes là? Je répète. Il y a un chemin, il est étroit, il n'est pas facile, il est rocailleux, et ce chemin s'appelle Jésus. Oh, c'est mou, hein? Jésus! C'est Jésus! Attention, cette réalité, si nous acceptons cette réalité nous oblige à prendre alors le chemin de la miséricorde et de la compassion. Nous sommes tous en chantier. Tous en chantier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui ou celle de vous qui est sans péché jette la première pierre à l'autre. Et ça, ça calme. Parce qu'on repart tous de son côté en disant, « Ok, Seigneur, j'ai compris. Pas de problème. » Et oui, On est tous en chantier. Encore une fois, pas de pourquoi. Pas à dire, il est chrétien lui. T'as vu comment il réagit? Mais c'est pas normal. Combien de temps? 20 ans de conversion, il est encore comme ça. C'est pas normal. Il faut regarder à nous. Il ne faut pas regarder aux autres. Le travail, c'est nous qui le faisons. On est tous en chantier. D'une part, envers nos frères et sœurs, mais encore pire, écoutez ça. D'autre part, envers les inconvertis, car ils n'ont pas la même part de vérité que nous. Ils ne connaissent pas la vérité, les inconvertis. Comment on exige des autres alors qu'ils ne connaissent même pas la vérité? Ils agissent de la manière qui est écrite dans la Bible. Tout simplement. Pourquoi on va se mettre en colère avec eux? Pourquoi on se prend la tête avec eux? Ils ne connaissent pas la vérité. Ils sont sous l'emprise de l'ennemi. Et nous, on bataille avec eux. Mais c'est une folie. On devrait avoir de la miséricorde. On devrait avoir de la compassion. Parce qu'ils sont sous l'emprise de l'ennemi. Pourquoi on marche dans la combine? Il m'a dit ça. Ah ben tiens, ah ben moi je lui ai répondu, dis donc, tiens, pas. Mais c'est n'importe quoi. Si tu gagnes quoi à ça? Ils connaissent même pas le Seigneur. Toi, tu as la chance de connaître le Seigneur. Toi, tu as la chance d'avoir été choisi, de connaître la vérité, d'avoir la puissance de Dieu pour éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. Miséricorde et compassion. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Tu ne veux pas être traité, toi, quand tu chutes, avec miséricorde? Tu es sûr de ne pas chuter, toi? Tu es sûr de ne pas te tromper? Le jour où ça va t'arriver, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, moi, je mérite la miséricorde. Parce que j'ai chuté, mais ce n'était pas méchant. Que dalle! C'est comme les autres. Et si tu veux qu'on te traite avec miséricorde, ben sois miséricordieux. Les autres vont mal te parler. Même dans l'église.
Oh, dans l'église, non, c'est pas possible.
Si, c'est, je t'assure, c'est pas possible, ça n'existe pas. Même dans l'église, les gens vont mal te parler. Et alors tu vas faire quoi? Alors moi j'étais d'accord, Bertrand, avec tout ce que tu as dit en dehors de l'église. Mais alors là, quand dans l'église, alors là, franchement, c'est pas normal là, dans l'église. Quoi, c'est pas normal? Quoi, c'est pas normal? Ils sont en chantier, on est tous en chantier. Miséricorde et compassion. On est tous en chantier. Oh, mais quand même, moi, avec ma grille de lecture, j'aurais pensé que là, vu, ça fait quand même un bout de temps qu'il est là, lui, il ne devrait pas parler comme ça. Et puis elle non plus, là. Elle parle mal des fois, hein. Devrait pas parler comme ça. Hein. Non, elle vient à la prière, ouais, elle est tout le temps là. Ah, elle porte des dons. Elle porte des dons. Miséricorde et compassion. La connaissance de la vérité qui nous a affranchis, notre adoption par le Père à cause de son amour, nous place devant une grande responsabilité. Il y a une différence. On est appelé à faire une différence. Dans nos familles, on est appelé à ne pas rentrer en conflit. Avec nos enfants, on est appelé à ne pas rentrer en conflit. On doit voir une différence. Nous sommes chrétiens, on a la vérité, on n'a pas... Moi, je comprends les êtres humains à l'extérieur, ils s'énervent, ils ne sont pas contents, ils ne sont jamais satisfaits. J'ai de la famille autour de moi, ils ne sont jamais satisfaits. C'est normal! J'ai eu mon fils aujourd'hui, j'ai eu ma fille hier, ils ne sont pas contents, ils sont insatisfaits. C'est normal!
On n'habite pas l'un avec l'autre.
C'est impossible, ils ne peuvent pas être satisfaits. Pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas être satisfaits? Parce qu'ils ont ce vide en eux. C'est comme ça. Dieu les a créés et ils ne sont plus connectés avec Dieu. Donc, ils ont ce vide en eux. Et comme ils n'ont rien d'autre, ils ne croient pas en Dieu. Enfin, des fois, ils font semblant devant leur papa parce qu'ils aiment bien leur papa. Mais ils ne croient pas en réalité, ils ne croient pas à fond. Donc, ils espèrent naïvement que leur travail va les combler. Et puis quand le travail ne les comble pas, ben c'est le travail qui a un problème. C'est pas eux. C'est le travail qui a un problème. Et puis ceux qui les ont jugés pour la promotion. C'est pas normal. J'ai pas eu ma promotion. Bon, moi, je vais m'en aller. Moi, je vais partir. Bon, tu vois, oui, l'herbe doit être meilleure ailleurs. Sans doute. Mais quelle naïveté. Le problème, il est à l'intérieur. Il n'est pas vu, il ne voit pas, il est à l'intérieur. Ils sont aveuglés. Et tu ne peux même pas leur dire. Parce que si tu commences à ouvrir la bouche, ah papa, s'il te plaît, oh, tu ne me parles pas de Jésus. Ah non, 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 bah, non, non, ok, ok, bah, écoute, tu ne veux pas le remède, je ne te donne pas le remède. Reste malade. C'est triste, parce que c'est tes enfants. Mais on ne peut rien faire. Et c'est comme ça avec tous les autres êtres humains. Donc, il faut de la compassion, il faut de l'amour, il faut de la miséricorde. Parce qu'en plus, de temps en temps, tu vas faire le maximum pour eux. Et comme ils ne sont pas satisfaits, mais tu vas avoir un beau tacle, tu sais. Tu n'étais pas là. Ouais, mais tu t'es pas assez intéressé à moi. Oui, mais... Mais j'ai fait les petits déjeuners avec toi, on a parlé pendant une heure. Oui, mais quand j'ai eu besoin de toi, tu n'étais pas là. Ah, oh, mais j'étais pas là, mais j'étais... Ouais, j'ai essayé de t'avoir, tu n'as pas répondu au téléphone. Non, non, non. Ok, ok. Ah ouais. Injustice. Tu dis, mais je suis toujours là pour toi. Tu sais, on dirait le frère du fils prodigue, tu vois. On peut pas faire. C'est comme ça. Devant les flèches assassines que nous recevons, des paroles, des comportements, de la part des êtres que nous aimons, nous ne pouvons pas avoir les mêmes attentes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On ne peut pas avoir les mêmes attentes. C'est comme ça, il faut accepter. Et même nos frères et sœurs en Christ, on ne peut pas avoir les mêmes attentes. Un est en chantier, mais tu dis, ouais, mais ça fait 30 ans qu'il est en chantier. Bah oui, bah peut-être que ça va durer 50 ans. Mais c'est comme ça. Il a pas reçu ce que toi, tu as reçu. Mais tant mieux pour toi si tu as reçu ça et puis que tu as réussi à intégrer ça dans ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que nous, les prédicateurs, les enseignants, on espère que ça. On transpire pour essayer que la parole de Dieu soit intégrée en vous de façon à ce qu'il y ait un réel changement, une transformation pour que vous soyez réellement heureux. Une vie en abondance. Pas une vie où j'appartiens à Christ, mais il n'y a rien qui change et je suis toujours insatisfait, je ne suis jamais content, et puis le pasteur ci, et puis le diacre ça, et puis l'autre là qui fait la cour, là, mais ça aussi, tu vois, et puis patati, et puis patata. Et puis je ne suis pas content. Il faut arrêter ça à un moment. Il faut grandir. Mais bon, il faut, il n'y a qu'à, on connaît, il n'y a qu'à Faucon. C'est, que, hein, c'est facile ça. Mais non, c'est le Saint-Esprit qui fait les choses. Même si on y met toute l'énergie qu'on veut, tout le bon cœur qu'on veut, c'est qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous convaincre de justice et de péché. Amen. Et alors, devant le fait qu'on ne peut pas avoir les mêmes attentes envers nos proches, envers les gens qu'on aime. D'accord ? Il ne nous reste plus qu'une solution. Vous la connaissez ?
C'est travailler sur soi-même.
Ouais, non, mais il y en a une autre qui est dans la Bible. Je vous la fais voir. C'est celle-là. Réfléchissez bien. Regardez ce qui est marqué. Ah, merci ma chérie. Tiens, moi, j'ai une femme qui me connaît.
Non, mais tu m'as dit que tu transpires tellement.
Ah non, mais là, ça ne transpire pas pareil. Vous voyez un petit peu ce qui est marqué ? Regardez le verbe qui est utilisé. Le verbe savoir, ils savent pas. Comment tu en veux à quelqu'un qui sait pas? Des fois, je dis, on tourne pas rond. On dispute avec les gens. On a des attentes avec les gens. Ils sont pas là. Ils savent pas. Tu sais, c'est un peu le même dysfonctionnement. Moi, je vais me faire taper dessus, mais je vais essayer de rentrer vivant ce soir. C'est un peu le même dysfonctionnement entre l'homme et la femme. Et quand la femme dit pas, et puis que l'homme dit, mais il fallait me le dire. Mais quoi? Tu le sais pas, ça? Mais c'est tellement évident, il faut que je te le dise. Ben ouais, ça serait pas mal que tu me le dises, parce que si tu me le dis pas, je veux pas le savoir. Il sait pas! C'est un gars! Miséricorde insondable! Derrière ces tentatives de blessure, il y a un enjeu qui dépasse nos vies. Nous, on a été choisis. On est en chantier pour guérir. Accélère le chantier, Seigneur. Bon, mais ce n'est pas pour nous qu'on a été guéris. Ce n'est pas la finalité. La finalité, ce n'est pas bénédiction, des bénédictions, des bénédictions. Oh, je suis bien. Oh, qu'est-ce que je suis bien. Oh, qu'est-ce que je suis bien. Ça ne marchera pas. On ne se réalisera pas comme ça. On ne sera pas heureux comme ça. Non! Ce n'est pas comme ça qu'on a été créé. On a été créé à l'image de Christ. On a été créé serviteur. C'est en étant utile pour les autres qu'on se réalise. T'as déjà remarqué quand tu rends service à quelqu'un, et puis bon, la personne revient, puis elle dit oh, oh là là, non, c'est pas grave, c'est rien. Mais qu'est-ce que t'es content d'avoir rendu service, d'avoir été utile, tu vois? C'est ça la réalité. Donc derrière ces tentatives de blessure, ça c'est le plan de l'ennemi, être blessé hein, avec nos proches, tu vois. Il y a un enjeu qui dépasse nos vies. Les gens qui essayent de nous faire du mal, à leur insu, hein, parce qu'on n'est quand même pas tous des masos, on n'est pas tous OHP, là, hein, faut pas dire, non. Quand même, l'ennemi arrive à nous faire croire des choses. Donc ceux qui nous font du mal, à leur insu, ils participent à un dessein plus obscur qui dépasse notre personne et notre situation. Il ne faut pas que nous nous trompions de cible. Oui, ils nous ont fait du mal. Oui, ils l'ont fait comme des personnages d'une pièce ténébreuse qui se joue depuis des siècles. Nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang. Il y a quelque chose de plus grand derrière qui se dessine. Détruire les êtres humains. Détruire les relations. Afin que tout le monde soit malheureux. Et si tu peux te suicider au passage, c'est pas plus mal. Nous avons été blessés aux confins d'une guerre plus étendue qui dépasse notre personne. Le savoir permet de prendre moins personnellement le message de la flèche, le message de cette douleur, et de repousser avec la force de la vérité le sentiment trompeur qu'on a d'être visé par une malédiction toute personnelle. Croire que c'est toi qui étais visé, que c'est ta faute, que croire que, tu vois, le message de la flèche, c'est toujours moi, et pourquoi moi? Tu te trompes. C'est la méthode de l'ennemi. Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est l'autre, après-là, c'est là. C'est pour tout le monde pareil. Il y a un message derrière tout ça. Il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemi. Nous, on est l'armée du Seigneur. On n'a pas à se battre contre les êtres humains. Ça serait une grave erreur. Les êtres humains, il faut qu'on les prenne comme ils sont. Le message de la flèche, c'est une manipulation du diable. Il te connaît. Il sait où sont tes faiblesses. À travers la flèche que tu reçois, il va te faire passer un message. Un message de culpabilité. Un message de honte. Un message de dévalorisation. Un message de mal-être. Un message qui va te faire que tu te retrouves dans ton marécage intérieur qui n'est pas guéri encore et où tu prends ça pour toi personnellement. Alors qu'en réalité, c'est tout le monde qui est concerné. Et il utilise les mêmes messages avec tout le monde. Ça, on le verra quand on va parler de l'estime de soi. Le défi est toujours là. Et je le répète, nous avons besoin d'être en relation les uns avec les autres et en même temps, nos relations peuvent être la source de nos plus grandes souffrances. Le défi, il est de taille. Et c'est tout l'enjeu de notre vie sur cette terre. Au vu de l'importance des relations. Parce qu'on ne peut pas se passer des relations. C'est notre vie, les relations. Donc le défi, il est de taille. Réussir ces relations. Et puis c'est aussi le commandement suprême de Dieu de nous aimer les uns les autres. Alors comment faire? Comment faire? La réponse est toujours la même. Regardez à Jésus, notre modèle. Il a réussi. Et c'est à nous de regarder comment il a fait et d'appliquer comment il a fait. Apprenons à aimer les gens comme Jésus le faisait. Il nous semblerait plus facile d'aimer les gens en mettant de côté leurs mauvais penchants, comme s'ils étaient de gentils petits bisounours. Mais ce serait une erreur. Car lorsque nous les imaginons ainsi, leur mauvais comportement nous choque et nous les aimons plus. Nous ne les prenons pas comme ils sont. Il vaut mieux savoir comment est la personne et l'aimer comme elle est. Au moins, quand elle va montrer son visage, tu ne seras pas surpris. Tu dis, oh, je la connaissais celle-là, je l'attendais. Je ne savais pas quand est-ce qu'elle allait sortir, mais je l'attendais. C'est ce qu'on fait dans le couple, si on réfléchit bien. Dans le couple, on s'aime. On apprend à s'aimer. On apprend à connaître l'autre. Mais on sait comment il est. Mais on ne peut pas se fâcher tout le temps. Parce que si on se fâche tout le temps, on va finir seul. Donc, je ne veux pas finir seul. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait, ah, ça y est, je l'attendais, c'est arrivé. Moi, je fais souvent la remarque quand je monte sur le piédestal. Je compte les secondes. Je monte sur le piédestal. Je fais, oh là 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 là, combien de secondes? 1, 2, 3. Oui, mais quand même, wop, tac, t'es arrivé là. Tu sais, je suis descendu. Ça n'a pas duré longtemps. On le sait que ça va arriver. On ne sait pas quand. Mais c'est la surprise. Aïe, aïe, aïe. La déception et l'amertume nous saisissent parce qu'on avait espéré mieux de la part de nos frères chrétiens, de nos sœurs, de notre conjoint, de notre famille ou de nos amis. Vous voyez le côté naïf, là, la naïveté qui est en chacun de nous. La déception et l'amertume nous saisissent parce qu'on avait espéré mieux. On avait des attentes. Tu comprends? Même si on le sait. Non, mais pas lui. Non, mais pas elle. Tu vois? Elle, avec elle, on a fait un pacte d'amitié à la vie, à la mort. Elle ne sera pas comme les autres. Méfie-toi. Quand ça va t'arriver, on va te récupérer la petite cuillère. Parce que qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ben, ils sont tous pareils, finalement. Ah, je ne me referai plus avoir. Hein, finalement, moi, je n'ai plus d'amitié, plus rien, parce que c'est toujours pareil. Ça va te faire piéger. Tu as besoin d'amitié. Tu as besoin de relations. Tu vois? Mais ça, c'est ta naïveté qui t'a foutu dedans. Tu as dit, elle, non, je la connais. Elle, ouais, je la connais. Mais tu connais qu'il y a le péché qui est en elle. Ah non, pas elle. Elle est exemptée du péché. Le fameux, c'est pas normal. Par rapport à notre grille de lecture et nos fameuses attentes. C'est ça qui nous fout dedans. Ce qui nous fout dedans, c'est notre grille de lecture avec le « c'est pas normal ». Mais bon, je ne vais pas recommencer, ça fait une heure que j'en parle. C'est normal. Il vaut bien mieux prendre les gens comme ils sont, des êtres pécheurs, comme nous tous, et les aimer malgré leurs défauts. C'est ça la réalité. T'es pécheur, mais ça ne m'empêche pas de t'aimer. Et puis si un jour tu me fais une réflexion à la con, je dirais, mon frère, viens, c'est pas grave. C'est ça. Je vais pas dire, Alain, et pourquoi tu me parles comme ça? Je mérite mieux, moi. Attention, on ne parle pas comme ça, moi. Folie, folie. Et Alain, tiens, je ne sais pas ce qui se passe, il n'est pas bien, il n'est pas de bonne humeur, pas dire qu'il a ses règles. Mais non, ça marche pas. Et je lui dis, il a un problème. Hein? Et là, je lui dis, Alain, je t'aime, mon frère. Et c'est réglé. Et le problème est réglé. Et moi, ce que je vois, c'est que l'ennemi ne m'a pas eu. Je vais dire, l'ennemi, tu m'auras pas. Parce que je suis pas naïf. Je sais qu'Alain, il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Mais c'est pas parce qu'il m'aime qu'un jour, il va pas me faire une réflexion. Et cette réflexion-là... Du mal à passer. Pas grave. Ça arrive. Et si ça m'arrive, tu fais pareil. Bon. Ouais, je ne suis pas parfait, il y a le péché là-dedans, fais gaffe. Il vaut bien mieux prendre les gens comme ils sont, des êtres pécheurs comme nous tous, et les aimer malgré leurs défauts. Parce que moi aussi, j'ai des défauts. Et moi aussi, j'ai besoin qu'on m'aime. Miséricorde et... compassionné. Plutôt que de les aimer en fonction de ce que nous voudrions qu'ils soient et aller de déception en chagrin et prendre le risque d'être blessé et de rompre la relation. Voilà l'enjeu. Je le répète, parce que ça vaut le coup. Il vaut bien mieux prendre les gens comme ils sont, des êtres pécheurs, comme nous tous, et les aimer malgré leurs défauts, plutôt que de les aimer en fonction de ce que nous voudrions qu'ils soient et d'aller de déception en chagrin et prendre le risque d'être blessé et de rompre la relation. Amen. Ça mérite un amen. Parce que ça, là, c'est ça qu'il faut réfléchir. Comment je vois les autres? Comment je prends mon mari? Comment je prends ma femme? Moi, je la veux comme ça. Ben, mon gars... Tu vas te taper la tête dans le mur, hein, je te le dis. Moi. Parce qu'avant qu'elle change, mais il y aura de l'eau sur les ponts. Hein. Regardons à Jésus, puisque c'est ce que j'ai annoncé. Regardons au véritable amour à travers notre modèle. Dans Jean 2, 24-25, juste après ces incroyables miracles de la fête de la Pâque juive, quand beaucoup de monde s'est mis à croire en Jésus, le verset nous dit ceci. Écoutez bien. Ah ben, il est affiché. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Eh ? Pas naïf, Jésus. Hein ? Pas naïf. À la première lecture, il nous serait facile d'en conclure que Jésus était un type froid, distant, méfiant, décidé de se protéger. On l'imaginerait jaugeant ses disciples en se demandant quel nouveau coup il prépare, ne croyant à aucune parole aimable que de l'hypocrisie, et dégageant une indifférence hostile qui tiendrait son entourage à distance. Je vous aime, mais de loin. On n'est pas dans ma tour d'ivoire. Mais ce n'est pas le Jésus que nous connaissons. Relisons le verset. Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. La racine du mot, là, c'est du mot « fier ». C'est « foi ». Autrement dit, on pourrait lire le verset ainsi. Jésus n'avait pas foi en l'homme. Vous comprenez la différence ? Jésus n'avait pas foi en l'homme. C'est-à-dire qu'il ne dépendait pas des hommes, ni n'avait besoin de leur jugement sur lui, ni son ascension, ni sa chute ne dépendaient de la manière dont il le jugeait. Comprenez des bosses ? Il les connaissait tous et savait qui était dans l'homme, ce qui était dans l'homme. Il ne basait pas sa vie sur ce qu'on disait de lui. Ne basait pas sa vie sur ce que les gens disaient de lui. Réfléchissez bien à ça. Basait pas sa vie sur ce que les gens disaient de lui. C'était un homme qui avait une claire conscience de lui-même, de son destin, de sa valeur. Il savait qui il était. Et ce que les hommes avaient à dire de lui n'y changerait rien. Vous voyez comment il prenait les choses ? Mais pour éviter les pièges de l'offense et ajuster nos réactions à ceux de Jésus, il faut se souvenir que malgré sa connaissance exacte de l'être humain, il les aimait à la perfection. Il a donné sa vie pour eux. Hein ? Ça fait réfléchir. Hein ? Il a donné sa vie pour eux, pour nous. Il les aimait à la perfection, ces gens gravement abîmés, dont les paroles ne lui inspirait pas confiance et auquel il ne se fiait pas parce qu'il savait ce qu'il y avait en eux. Amen. L'amour de Jésus. C'est un exemple. Il aimait les gens comme ils étaient. Il savait ce qu'il y avait en eux. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller mourir pour eux. Ah, c'est grand. Hein ? C'est pour eux qu'il est mort. Ceux-là qu'il a aimés sans réserve. Au point d'endurer la honte et la croix pour eux. D'abord, à la croix, il s'est fait cracher dessus, il s'est fait humilier, hein, et alors qu'il était en train de donner sa vie pour eux. Et la parole de Dieu nous le dit. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Tu vois ? À la fois, tu aimes les gens comme ils sont, mais tu n'attends pas d'eux le retour, que tu aies de la valeur ou que tu estimes ta valeur par rapport au retour qu'ils vont faire de toi. Et ça, on le verra dans une soirée qui s'appelle les attentes. Se débarrasser des attentes pour se protéger. La clé, elle est là. La clé est là. C'est l'appel que nous avons reçu pour vivre sur cette terre au milieu des créatures déchues, désespérées, et pour les aimer parfaitement, pour aimer nos proches qui nous ont blessés, qui nous blessent et qui nous blesseront encore. Appelés à aimer comme Jésus a aimé. Amen. Ça, c'est beau, ça. Il savait ce qu'il y a dans nos cœurs, le mal, la jalousie, les envies, les méchancetés qui tournent dans les eaux de nos âmes comme des requins. Il ne faisait donc pas reposer sa vie, sa valeur ou son estime de soi sur ce que les gens disaient ou admiraient. Ce qui ne l'empêchait pas d'aimer parfaitement ceux à qui il avait affaire et même de les apprécier. Parce qu'il n'y avait aucune illusion dans ce dont ils étaient capables. Ils pouvaient être trahis du jour au lendemain. Ils pouvaient être abandonnés du jour au lendemain. Mais ça ne changeait pas sa position. Vous savez pourquoi ? On va le voir. Parce qu'il avait décidé d'aimer. Ah ! Il avait décidé d'aimer. Il n'a pas aimé en fonction des circonstances. Il n'a pas aimé en fonction des sentiments des autres. Il était proactif, comme on dit. Il a dit non, moi j'écoute le Seigneur et je décide d'aimer. Et c'était ça sa force. Il n'a pas dit je décide de t'aimer. Et puis toi tu me fais une crasse. Oh mais Alain, je ne t'aime plus. Ah non, à ce que tu m'as fait là, je ne t'aime plus. Je prends l'offense. À ce moment-là, je prends l'offense. Eh oui, je vais pas me le dire que je prends l'offense. Je vais juste ruminer. Ah, ben alors là, je croyais qu'il était autrement. Non mais franchement, non mais comment il est avec moi lui? Ah mais c'est Alain ça qui m'a fait ça. Oh, là t'es foutu. T'es foutu. Tu vas prendre l'amertume pleine dose. Il faut bien admettre qu'une grande part de nos blessures viennent de notre surprise horrifiée en constatant que ceux en qui nous avions mis notre confiance peuvent se montrer aussi cruels et injustes. Nous devons aussi reconnaître la folie de notre excès de confiance et de naïveté sur les promesses de simples êtres humains. Je vous le dis, moi, on est naïf. On veut le monde autrement. Et de temps en temps, on sort la tête du sable, parce qu'on nous l'avait bien enterré. Puis là, ça commence à aller mieux. La tête, on la ressort de l'eau. Puis là, on se dit, bon, peut-être que je ne suis pas tombé sur les bonnes personnes. Bah, peut-être avoir un peu plus de chance. Donc, on se redonne un espoir. Un espoir que la prochaine personne, ça sera la bonne. Vous voyez comment on est naïf ? Non ? Alors, elle sera pareil, ce sera les mêmes choses. Tu vas retomber dans les mêmes choses. Et tu seras à nouveau déçu. Puis tu vas aller pleurer encore à nouveau. Et puis tu vas mettre la tête sous l'eau. Mais ça va durer toute ta vie. Parce qu'on ne prend pas le problème par le bon côté. J'ose encore une petite chose avec vous ce soir. J'ose. Sommes-nous capables de reconnaître que parfois, nous nous sommes laissés aller au sentimentalisme et aux rêves, en oubliant avec quelle méchanceté les gens peuvent agir? J'ai l'impression des fois qu'au fond de nous, il y a une fibre bisounours qui voudrait tellement que ça se passe comme dans les films. Ou alors c'est peut-être Hollywood qui nous a paumés, ou les livres, je ne sais pas où c'est arrivé, mais... On a envie de vivre autre chose. On a envie que le monde soit... Ah, fleur bleue. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le monde est manipulateur. Le gars qui te fait ça, il va te le faire. Profites-en bien. Un petit instant. Parce que sa nature va reprendre le dessus. Tu vois. Là, il t'apporte des fleurs. Il te fait des gros bisous. Il est là pour toi, tout le temps, à chaque instant. Et là, tu dis, oh, j'ai trouvé la bonne personne, oh, mais c'est pour la vie, oh, je l'épouse tout de suite. Et puis là, tu es marié, puis tu dis, mais alors, sont où les fleurs? Bah, les fleurs, un peu chères, les fleurs, oh, faut y aller mollo. Ouais, et tout d'un coup, tu dis, mais j'ai pas épousé cette personne-là. Et c'est ce que t'as fait croire. Le chevalier blanc, il n'existe pas. Le héros que tu vois dans les films, il n'existe pas. Mais tu y crois quand même, parce que tu veux y croire au fond de toi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Pouvons-nous envisager un instant notre part de responsabilité à cause de notre naïveté? Aurions-nous oublié, parfois, que rien n'est parfait dans ce monde, même dans nos églises? Parce qu'on se blesse dans nos églises, parce qu'on est naïf. Ben oui, parce que c'est... Pourquoi dans nos églises? Parce que c'est là... où on a abaissé nos armes, c'est là où on a abaissé notre armure d'une méfiance raisonnable. On n'est pas tous là à se méfier dans l'église, tant qu'il y a qui va me tirer dessus le premier. On n'est pas comme ça, d'accord? Mais on oublie, parce que ça c'est le monde de l'amour, c'est Jésus. Donc il n'y a pas de problème. Mais quelle naïveté! Quelle naïveté! Le débat, le conflit, il est pas, le débat, il n'est pas là, il ne se passe pas à ce niveau-là. C'est que tu vas rencontrer des gens qui sont différents de toi, qui pensent différemment de toi, et que justement, c'est là comment toi, tu réagis avec les frères et sœurs qui ne sont pas comme toi, qui ne pensent pas comme toi, qui n'agissent pas comme toi. Là, c'est intéressant. Comment tu réagis, toi? Comment tu fais voir le fruit de l'esprit? Là où ça devient un peu dur, là.
Là où ça devient un peu serré. Comment tu fais?
C'est là que c'est intéressant. C'est là que le fer aiguise le fer. Si tout le monde s'entend bien. Mais franchement, y a pas, t'as pas besoin de transformation. Tout est tellement beau. J'ai pas besoin de changer, Seigneur. Regarde comment ça se passe, c'est magnifique. Le Seigneur t'a amené là pour que tu aiguises le fer et pour que là, tu rencontres des gens qui ne sont pas d'accord avec toi et qui pensent autrement et qui agissent autrement et que tu sois amour avec eux. C'est là que tu es attendu. C'est pas le frère ou la sœur qui est en question. C'est ton amour à toi qui est en question. T'en es où dans ton amour à toi? Est-ce que tu aimes le frère et la sœur qui t'énervent? Est-ce que c'est là que ça vient te chercher un petit peu? C'est ça qui est beau. Hein? Par la puissance de Dieu, pas par mes propres forces. Pas, il faut que je l'aime, lui. Ah, il faut que je l'aime. Ouais, ça va? Tu viens? Que Dieu te bénisse. Il faut que je l'aime, il faut que je l'aime. Non! Non! Par la puissance de Dieu qui te fait aimer les frères, qui te fait aimer les sœurs, de l'amour de Jésus, de l'amour inconditionnel de Jésus. Cet amour-là, il passe en toi, il t'irradie en toi pour que tu changes, et puis il coule. Et il irradie les autres. C'est ça la réalité de la Bible. Et là, on comprend mieux l'Église. On comprend mieux que Dieu a créé l'Église pour que nous soyons fortifiés, pour que nous soyons transformés. Il y a plein de gens dans l'Église. Mais si je n'avais pas été chrétien, je ne les aurais jamais rencontrés. Ils ne sont pas du même milieu que moi. En plus, moi, je suis oreille. Tu comprends? Aucune chance de rencontrer beaucoup de gens là-dedans. Ils auraient dit, ah, oreilles, ah, au secours, les oreilles. Je fuis les oreilles. Non, mais j'ai été mis au contact de gens qui, à l'origine, mais franchement, c'était un monde pour moi, un monde différent. Parce que quand tu viens à l'église, tu côtoies tout le monde. Alléluia! Tu côtoies le chômeur, tu côtoies le chirurgien, dans le même banc, et tu chantes Alléluia tous ensemble. Il n'y a que dans l'église que tu vas vivre ça. Avec des origines différentes, un background différent, une histoire différente. Mais c'est ça qui est beau. J'ai mis du temps à le comprendre. J'ai été blessé avant de comprendre ça. Mais le Seigneur m'a dit, c'est là que je te veux. Là, t'es sûr, Seigneur? Oui, je te veux là. Je sais pas. Si, je te veux là. Et j'ai guéri dans l'église. Et maintenant, j'enseigne. Le Seigneur nous se sert de notre misère pour en faire un ministère.
J'ai écouté un témoignage de... Excusez-moi. Un témoignage de... Le pays maghrébin, là-bas, c'est qu'il y a les chrétiens qui sont persécutés. La personne témoignait, c'est un témoignage, qui disait de prier pas pour qu'on soit persécuté, mais prier pour qu'on puisse aimer ce qui nous persécute.
Ouais. C'est grand. Hein, des fois, on se trompe de combat, ouais. Tout simplement. Je crois que nous avons sans doute parfois reproché aux autres notre excès de crédulité, de confiance, et le fait que nous nous sommes trop reposés sur ce que de simples êtres humains pouvaient faire pour nous. Et dans ces cas-là, nous n'avons pas su protéger notre cœur. Pourtant, la parole de Dieu nous met en garde sur l'importance de la bonne santé de notre cœur. Protège ton cœur. Fais attention à ce qui rentre dans ton cœur. Fais attention à l'amertume. Fais attention aux offenses. Fais attention aux blessures. Comment tu vas réagir? Pas la blessure qui est grave. La blessure, il y en aura tout le temps. Tout le monde, là. Tout le temps, on sera blessé. Si vous espérez un jour que, ça y est, vous avez eu votre quota de blessures, maintenant vous êtes tranquille, ben vous vous trompez. Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, dans ton lit, tu as quelqu'un qui sera capable de te faire une réflexion à la con et qui te dira, je m'en vais, mais je l'aime, cette personne-là. Jusqu'à la fin, ce sera comme ça. Donc, le problème, ce n'est pas ça, ce n'est pas la blessure. Le problème, c'est comment tu gardes ton cœur. Comment tu protèges ton cœur? Parce que de lui coulent les sources de la vie. Nous avons besoin d'exercer notre foi en mettant en action la parole de Dieu. Jésus, notre modèle, est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Hein? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça y est, on y arrive à l'antidote. Comment on fait? Comment on fait pour être en relation les uns avec les autres, avec des gens capables de nous faire du mal? Et comment on fait pour les aimer? Regardez bien ça. Vous savez ce que c'est ça? C'est une décision. Ce n'est pas du sentimentalisme. Ce n'est pas des affinités. C'est une décision. J'ai décidé d'aimer. Pas pareil, hein? J'ai décidé d'aimer. Et encore une fois, je vais le dire là, ce n'est pas aimer avec notre pauvre petit à boire, humain. On ne peut pas. C'est avec l'amour de Dieu, amen, le Saint-Esprit, agapé, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Jésus avait décidé d'aimer les êtres humains, malgré ce qu'ils sont. Il avait décidé de sacrifier sa vie pour eux, sans être certain qu'il accepterait son sacrifice. Il va à la croix pour des gens, il ne sait même pas si les gens vont accepter son sacrifice. Mais il avait décidé. Il a été découragé, hein, plus d'une fois. Pierre l'a découragé, plein l'ont découragé. Mais il avait dit non, c'est une décision que j'ai prise. C'est la plus grande leçon que Jésus nous ait laissée. Non, c'est pas celle-là. Décider d'aimer tous les êtres humains, quelles que soient les circonstances de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que les circonstances de la vie, les paroles, ce qu'on te dit et tout ça, c'est pas ça qui décide est-ce que je vais aimer ou pas. C'est une décision. On va continuer un peu plus loin. L'amour de Dieu, agapé, c'est cette puissance qu'on considérait qu'on n'est pas dans le pays des bisounours. La puissance, agapé, c'est une puissance. Voyez-le comme une puissance. Ne le voyez pas comme, je ne sais pas moi, l'amour humain, je t'aime, nanana. Non, on n'est pas là. On est dans une puissance. C'est une puissance que Dieu veut que nous mettions en action. Pas notre amour humain. Lui, l'amour humain, il est inconstant. Il est infidèle. Il suit l'humeur de nos émotions. Cet amour qui vient de la terre et qui fonctionne bien quand tout va bien. Mais dès que ça tourne au vinaigre, il n'y a plus d'amour. Ça, c'est l'amour humain. Non, il veut que nous pratiquions son amour qui vient du ciel. Celui qui est né de l'esprit. Un amour parfait, inconditionnel, qui ne se réfléchit pas, mais qui se donne. Qui ne se réfléchit pas, mais qui se donne. C'est-à-dire que, lui là, il mérite mon amour ou pas? Attends, il faut que je réfléchisse à un coup. Pas sûr. Non, ça c'est l'amour humain. L'amour de Dieu se donne. L'amour de Dieu, il coule comme une source. Et il continue et il déborde. C'est un amour qui donne la vie. C'est cet amour qui nous a réconciliés avec le Père. C'est cet amour qui nous a permis de retisser nos câblages avec le Père, de recevoir cette vie en abondance promise dans Jean 10:10. Un amour que rien ni personne ne peut nous faire perdre. Vous comprenez ça? C'est un amour qu'on a reçu et que rien ne peut nous enlever. Personne ne peut nous enlever, ni les gens, ni les circonstances, rien. Regardez ce qui est marqué. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les épreuves, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Oui, parce que nous sommes différents. Oui, parce que nous répliquons pas. Oui, parce que nous cherchons pas la bagarre. Oui, parce que nous aimons celui qui nous provoque. Nous aimons celui qui nous fait du mal de l'amour de Dieu. Alors oui, on est vu comme des brebis. Ah, tu dis rien, toi? Ah, tu réagis pas plus que ça? Ah, mais tu es une femmelette. Ah oui, on est vu comme des brebis qu'on mène à l'abattoir. Mais à cause de Christ. Merci, Seigneur. C'est pour ton nom, Seigneur. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans la façon de voir les choses, dans cette façon d'agir, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni Satan, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen ! Alléluia ! Mais c'est beau ça ! On a reçu quelque chose que personne ne peut nous voler. Et la chose qu'on a reçue, c'est ce qui nous permet de retisser nos câblages avec le Seigneur. Ce n'est pas terrestre, c'est spirituel. Mais c'est le fondement de notre vie. Nous avons tout avec cet amour. Tu as tout. Si tu crois qu'il te manque quelque chose, mensonge du diable, mensonge de cette société de consommation, mensonge de cette façon de façonner nos cerveaux. On a tout. Tout ce que tu as besoin pour être heureux, tu l'as avec cet amour. Si on te dit le contraire, c'est un mensonge. Aimer, écoutez bien ça, on arrive à la fin. Aimer, c'est reprendre le pouvoir sur nos vies. Gardez ça près du cœur. Aimer, c'est reprendre le pouvoir sur nos vies. Cette vie intérieure qui nous donne la vraie joie, la vraie paix, et qui nous rend libres des offenses des êtres humains, en découvrant que par la puissance de cet amour, nous pouvons désormais les aimer comme ils sont, parce que nous ne sommes plus esclaves de leurs paroles, de leurs jugements, de leurs regards. Seul compte désormais le regard du Père sur nous.
Amen.
Amen. Nous sommes nés de nouveau par la puissance de l'Esprit et le fruit du Saint-Esprit. C'est l'amour agapé. Rempli du fruit de l'Esprit, rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, son fruit, c'est l'amour. C'est l'amour agapé. Rempli de son esprit, c'est être rempli de l'amour de Dieu. Parce que cet amour, si vous vous laissez envahir par lui, alors vous connaîtrez une guérison extraordinaire. Vous serez alors comblés par cet amour qui viendra habiter dans tous les recoins de votre cœur. C'est l'amour de Dieu qui vient guérir notre cœur blessé. Ce que les êtres humains ont fait de nous. Les circonstances déchues de ce monde déchu, ce qu'ils ont provoqué en nous, c'est l'amour de Dieu qui est capable de venir dans tous les recoins de notre âme pour aller guérir ces blessures-là. Ensuite, c'est pas fini. En cultivant cet amour va déborder autour de vous et venir inonder chaque personne que vous côtoierez. À tel point que cet amour deviendra votre bouclier contre les flèches empoisonnées du malin. Amen. Cet amour rempli du Saint-Esprit, cet amour qui t'inonde pour te guérir, il te remplit, il déborde. Il déborde, il te fait une ceinture, un bouclier d'amour pour les êtres humains. Et les flèches qui essayent d'arriver, ils tombent dans l'amour et ils ne peuvent rien faire. Alléluia. Tu rigoles avec ces flèches-là. Il n'y a plus le message avec la flèche. C'est fini ce qu'on a voulu te faire croire. Tu es rempli de l'amour de Dieu. Tu es accepté par Dieu. Tu es béni par Dieu. Tu as trouvé ta valeur en Jésus-Christ. Les flèches viennent, il n'y a plus de message. Les messages sont nuls. Tu es une merveilleuse créature.
Amen.
Alléluia. Nous sommes des merveilleuses créatures. Et les êtres humains pourront dire tout ce qu'ils veulent. Rien à faire. C'est Dieu qui a le dernier mot.
Amen.
Et Dieu qui a le dernier mot sur ma vie. Aimez ceux que vous aimez. Mais aimez aussi ceux qui vous ont blessé. C'est le secret pour être dans cette vie d'abondance. Où plus aucun être humain n'a le pouvoir de vous voler votre paix, votre joie, votre bonheur d'être en Jésus et d'avoir hérité de la vie éternelle. Goûtez, goûtez, mangez cet amour sans modération. Je vous donne rendez-vous. Pour les 4 prochains vendredis, nous allons approfondir tous les sujets que nous avons vus ce soir, et en particulier, qui sommes-nous réellement en Christ ? Nous allons mettre en lumière le piège des attentes envers les êtres humains. Nous allons regarder en détail le piège des offenses. Et enfin, nous allons voir comment vivre le vrai pardon.
Amen.
Et nous aurons cette vie bénie,
Amen.
Cette vie en abondance,
Amen.
Cette vie où nous avons tout ce qu'il faut,
Amen.
Tout. Et on sera capable d'éviter les pièges du diable. Dans nos relations. On sera capable d'être différent dans nos relations. On ne se fera plus piéger. L'amour
Amen.
Triomphera.
Amen. Amen.
Alléluia! L'amour triomphera. Oh, alléluia! Alléluia! L'amour pour mon frère, il va triompher. Amen, amen, amen! Alléluia! Eh bien voilà, cette introduction se termine là-dessus. J'espère que vous avez capté les choses. Moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez l'importance de l'amour de Dieu dans vos relations. Et que vous mettiez toujours cet amour en premier, de façon à vous protéger votre cœur, de façon à ce que les flèches n'atteignent pas leur but. Et que votre identité n'est pas dans le message de la flèche. Votre identité, elle est ce que dans Dieu dit de vous. Et que les messages ne sont que des mensonges. Et vous libérez de cet esclavage de croire dans les paroles des êtres humains qui vous dévalorisent, qui vous disent des choses pour que vous soyez dans la honte, dans la culpabilité, que les circonstances que vous avez vécues, malencontreuses, ne viennent pas déterminer qui vous êtes. Mais c'est Dieu qui détermine qui vous êtes. Parce que c'est la vérité. Parce que Dieu, il nous a créés. C'est lui, avant la fondation du monde, qui avait misé sur toi. Il sait qui tu es exactement. Et quand il parle de toi, il sait de quoi il parle. Le péché t'a déformé, mais l'amour de Dieu va te reformer. Va te reconstruire. Et tu pourras aider les gens autour de toi. Quand tu vas le vivre vraiment, tu vas donner envie aux autres. Parce que c'est ce que tout le monde cherche. Seulement des fois, on ne sait pas le montrer aux autres. Parce qu'on n'est pas encore rentré pleinement dans cette victoire, dans cette manière de nous comporter avec les autres, dans notre manière de nous comporter avec les flèches qui nous arrivent. Parce qu'on est encore trop dépendant du message de la flèche. Libre.
Amen.
Nous sommes libres.
Amen.
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 Alléluia. Amen. On prie, on remercie le Seigneur. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, nous prions, Seigneur, pour que cet enseignement puisse pénétrer nos cœurs. Que cet enseignement, Seigneur, vienne changer nos façons de concevoir, Seigneur. Que nous arrêtions, Seigneur, de fonctionner comme nous avons toujours fonctionné jusqu'à maintenant. Seigneur, nous voulons nous aligner sur toi. Nous voulons nous aligner sur ta façon de réagir, ta façon de te comporter. Tu es venu pour nous montrer l'exemple, le chemin, la vérité et la vie. Alors Seigneur, aide-nous à rentrer dans cette dimension, Seigneur. Oui, nous avons besoin de rentrer dans cette dimension d'amour, Seigneur. Ô Père, agis, Seigneur, dans nos vies. Agis puissamment. Que nous soyons renouvelés dans notre intelligence. Que nous soyons renouvelés dans notre façon de concevoir nos relations les uns avec les autres. Seigneur, nous ne voulons plus être offensés. Seigneur, nous ne voulons plus que le message de la flèche nous dise qui nous sommes. C'est un mensonge de l'ennemi. Seigneur, nous voulons crier la vérité, Seigneur. Nous voulons crier ta vérité, Seigneur, sur nous. Ah Seigneur, nous ne voulons plus être victimes de l'ennemi. Nous ne voulons plus vivre dans la naïveté. Mais nous voulons aimer les gens comme ils sont, par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen, amen et amen. Alléluia, gloire à Dieu. On applaudit le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia.